Dans ce journal, on vous parle de BTP avec ses déclarations de Muay Thai Brotherson. On s'intéresse aussi au rythme scolaire. Et puis on vous présente la nouvelle édition du FIFO avant de faire un point sur le calendrier sportif. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Le gouvernement veut rassurer le BTP.
Oui, c'est ce qu'a dit le président Brotherson en début de semaine lors de ses vœux au CESEC, puis sur notre antenne, face à un secteur qui dit manquer de visibilité à court et à moyen terme. Il a d'abord pointé du doigt certaines crapules du secteur, dit-il, qui jettent le discrédit sur l'ensemble du BTP au moment de pratiquer leur prix. Alors Thierry Chancin, le président de la Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, veut rester prudent, mais il explique que si le président fait référence à un projet dans les îles, le prix n'est évidemment pas le même que pour un chantier à Tahiti, avec, dit-il, des contraintes pour les entreprises et des ratios très variables qui peuvent refléter les difficultés de certains acteurs dans ce marché très hétérogène et qui a vu plusieurs faillites retentissantes. Muay Thai Brotherson dit comprendre cette inquiétude du bâtiment, mais assure qu'il s'agit davantage d'un ressenti, d'une angoisse pour le futur plutôt que d'une réalité.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, le bâtiment ne souffre pas. Il croule sous les chantiers, ils croulent sous les commandes, ils ont du mal à répondre aux appels d'offres du pays. Nous avons 30% des appels d'offres du pays qui sont sans réponse, donc ça veut bien dire que les gens sont occupés. Rien qu'avec le secteur de l'équipement, on a de quoi occuper nos entreprises jusqu'à à peu près la moitié de 2025. Et avant la fin de l'année, il y aura de nouveau des appels d'offres qui seront lancés, qui là, en gros, vont. Et là encore, une fois, je parle que de l'équipement, qui vont tenir nos entreprises occupées pour les 3 ans qui viennent.
Et c'est sans compter, dit-il, les chantiers de logements sociaux ou de projets touristiques qui vont voir le jour. Mais ces données-là, pour l'instant, on n'a pas les éléments. Voilà ce que rétorque Thierry Chancin.
Invité à la présidence à la fin du mois de janvier, là, pour la présentation des projets qui doivent être déclinés par le ministère des Grands Travaux. Au cours de l'année 2023, tout le monde a appris par la presse l'arrêt, la suspension, le redimensionnement de certains projets. Et malheureusement, on n'a pas eu d'autres infos, on n'avait pas d'autres précisions, donc ça a été source de stress et d'inquiétude. Si j'ai bien compris, on va faire le point sur tous les marchés publics, y compris si j'ai compris avec le port autonome, G2P, la sensibilité à l'équipement. Donc on devrait avoir de la visibilité. Un petit peu plus en tout cas, c'est ce qu'on espère.
Et cette réunion à la présidence est prévue à la fin du mois pour une présentation des projets du pays par le ministre des Grands Travaux.
On regarde à l'international.
Oui, et on regarde du côté de l'Azerbaïdjan, un pays avec qui les relations sont tendues avec la France. Eh bien, le Parlement de cet État a recommandé hier à Paris de prendre des mesures en vue de la reconnaissance de l'indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le Parlement azerbaïdjanais a également demandé de couper tout lien économique avec Paris et d'expulser les entreprises françaises du pays, et ce dans un contexte de tension lié au soutien de la France à l'Arménie, pays voisin et ennemi de l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas la première fois que cet État, considéré par de nombreux observateurs comme une dictature, fait parler de lui dans le Pacifique francophone. Début décembre, Paris avait accusé le pays d'avoir tenté de mener une opération de déstabilisation en Nouvelle-Calédonie. C'était à l'occasion de la venue du ministre des Armées, Sébastien Lecornu.
Le pays travaille sur une réforme des rythmes scolaires.
Oui, après avoir suspendu en juin la réforme concernant les obligations réglementaires de service des enseignants, le ministre de l'Éducation, Rony Terry-Ipaya, prévoit finalement de la faire appliquer à partir de la prochaine rentrée. Celle-ci implique une réduction des temps d'enseignement qui vont passer de 27 heures à 24 heures par semaine. Et ces 3 heures, 108 au total sur l'année, seront consacrées aux réunions réglementaires mais aussi aux formations. Rony Terry-Ipaya insiste sur le fait que cette réforme, qui entraîne forcément une modification des horaires, eh bien qu'elle doit être mise en place en concertation avec toutes les parties prenantes.
Et les horaires seront fixés après en concertation avec les parents et les communes surtout, et les transporteurs. Parce qu'il faut qu'on soit tous au diapason, faire en sorte que tout se passe bien. Il n'y a que le nombre d'heures dévolues. Okay, ça peut être 5 heures par jour, mais il ne faut pas dépasser 6 heures par jour pour permettre justement à l'enfant d'être bien. Parce que si on donne trop d'heures, ils sont fatigués.
Et cette évolution va aussi permettre aux enfants de s'adonner à des activités périscolaires, mais leurs parents devront quoi qu'il en soit s'organiser. Et pour leur permettre de le faire au mieux, 5 scénarios pour moduler la répartition des cours sont mis sur la table. Semaine de 4 ou 5 jours, après-midi libre ou non, les parents auront en tout cas leur mot à dire. Dans l'administration publique, certains agents pourront par exemple opter pour le télétravail tandis que les autres devront toutefois s'organiser.
C'est pour ça qu'on propose plusieurs scénarios. Donc, on rappelle aussi aux parents qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est important. Nous, on joue notre rôle en tant qu'éducateurs, mais aussi, ils ont aussi leur rôle en tant que parents. Ben, quand on a des enfants, mais après, on s'organise en fonction. Donc, c'est vrai que les communes peuvent contribuer eh bien, à s'occuper des enfants pendant les heures où ils ne seront pas à l'école. Mais ça, je le rappelle encore une fois, ce n'est pas une obligation. En fonction du scénario qui va être proposé ou qui va être voté ou retenu pour telle ou telle école, ben, il faudra s'organiser.
Le changement arrivera avec son lot d'inconvénients, mais aussi ses bons côtés. Un travail conjoint avec le ministère de l'Équipement a ainsi été engagé pour repenser la fluidité du trafic en fonction des horaires, qui pourront d'ailleurs différer d'un établissement à l'autre, même s'ils sont situés dans une même commune. C'est la consultation citoyenne que va lancer le ministère dans les écoles du 11 au 15 mars qui permettra ainsi d'en définir les contours de manière précise. Elle prendra la forme d'un vote, un par famille, qui désignera le scénario favori des parents. En fonction de cela, les communes et les transporteurs émettront des avis qui devraient, selon le pays, permettre à terme la mise en place d'horaires convenant à la majorité des familles. A noter toutefois qu'il n'est pour l'instant pas question de modifier la durée des vacances scolaires, mais attention, ce n'est pas exclu dans le futur.
Culture, le FIFO dévoile son programme et ouvre sa billetterie.
Et le Festival international du film documentaire océanien aura lieu du 2 au 11 février prochain à la Maison de la Culture. La billetterie est ouverte dès aujourd'hui aux scolaires et au grand public et le programme est disponible en ligne. Alors en plus des projections de documentaires tout au long de la semaine, des ateliers, des conférences et des échanges sont prévus. Le FIFO qui entre dans sa troisième phase avec cette 21e édition, il est depuis toujours plus qu'un simple festival, comme le rappelle Marie Kops, coordinatrice du programme professionnel. Il est un acteur et un soutien à tous les secteurs, des rencontres et animations sont mises en place spécialement pour les auteurs, les diffuseurs, les producteurs et les réalisateurs. Et cette année, et après 10 ans d'absence pour ces professionnels, le pitch revient. On écoute les précisions de Marie Kops qui rappelle les contours de cet événement.
On a le grand plaisir de relancer cet événement qui est cher au FIFO. Il a un nouveau format cette année, donc il s'intitule Oceania Impact Pitch for Indigenation. On a voulu vraiment introduire la notion d'impact. On a lancé les appels à candidature en novembre. Les 7 porteurs de projets océaniens ont été retenus, 2 de Polynésie et 5 du Pacifique hors Polynésie. Ces 7 candidats retenus vont participer à une semaine de festival où ils auront une semaine de training pour être prêts et présenter leur pitch devant le jury.
Voilà, Marie Kops, coordinatrice du programme professionnel du FIFO, elle répondait à Delphine Barret.
Du sport pour terminer, 2 épreuves locales pour les marathoniens cette année.
La première, c'est le marathon de Moréa qui va se courir cette année pour la 33e fois les 31-31 mars prochains, puisqu'il y a un semi-marathon le 30 et le marathon le 31. L'événement organisé ces dernières années par Moréa Events est repris, comme on vous l'annonçait déjà en novembre dernier, par le VSOPXO qui ambitionne d'en faire l'événement course sur route de l'année. Les organisateurs parlent d'y apporter une dimension plus internationale, mais aussi de redynamiser l'image du rendez-vous. Cette année, il n'est pas question, par exemple, de départ en pleine nuit, dit de longue distance en continu, puisque le coup d'envoi sera donné plus tardivement et que le parcours devrait se dessiner sous forme de circuit pour créer un engouement chez les habitants de l'île Sœur. Et cet engouement, l'association Teiva Tuako Atea, présidée par le multiple champion Georges Richemont, espère aussi le retrouver 2 mois après, le 18 mai, aux Marquises. Car après plus de 10 ans passés sous silence, le marathon des Marquises va revenir à Ivaoa. Les organisateurs parlent d'une épreuve difficile avec des dénivelés importants et nécessitant une préparation sérieuse. Les courageux auront le choix entre courir l'épreuve complète 42 km ou encore la faire en relais. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 avril à Olympian Sport. A noter enfin que les inscriptions pour le marathon de Moréa, elles, démarrent dans 2 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité locale, ce sera avec votre flash de 16h.